Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. On est ravis d'être avec vous sur Radio Campus, il est 13h02. Et aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois. Il y a moi-même François Westin, je suis accompagné de Reynald Paris.
Bonjour.
Et de Dominique Candeille.
Salut à tous.
Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons faire un petit voyage dans l'univers geek. Nous allons vous parler notamment de salons qui sont en train de se dérouler en ce moment même.
Ce week-end prolongé, oui.
Effectivement, en Belgique. D'autres petits salons, on vous parlera aussi un peu de jeux vidéo et on a plein d'actualités, notamment sur Notre-Dame. Et, mais on en parlera à notre façon, comme vous nous connaissez bien.
Pas la mode BFM TV, j'espère.
Et non, pas de breaking news aujourd'hui. Et je vous propose tout de suite de commencer puisque le salon se tient en ce moment même. Et si vous êtes amateur d'heroic fantasy, de médiéval, vous allez apprécier ce salon qui s'appelle Trolls et Légendes et qui est maintenant assez connu.
Ah oui, c'est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs, que ce soit de jeux de rôle, cinéma, fantastique, même science-fiction,
même littérature,
des artisans, la culture médiévale, les combats à la grandeur nature, se battre à l'épée, etc.
Donc tout cela se passe au Lotto Mons Expo, c'est du 19 au 21 avril.
Ça a commencé vendredi par des concerts, on oublie la partie musique, mais on va en faire profiter nos auditeurs.
Voilà, effectivement. Hier, il y avait déjà eu des concerts et tous les soirs, vous avez des groupes, soit celtiques, mais généralement avec une petite pointe de métal. Donc voilà, si votre plan était de faire la sieste cet après-midi en écoutant Radio Campus, cela risque d'être compromis. Alors, Trolls et Légendes, nous on est plus ou moins des habitués maintenant de ce salon.
Alors, c'est un salon qui a lieu tous les deux ans seulement, donc les années impaires, hein, la dernière fois. Donc c'était en 2017 et ouais, on y allait. Moi j'y suis allé en tout cas, ça fait 4-5 fois qu'on y va maintenant, on essaie d'y aller. C'est assez énorme, je crois qu'il prévoit 30 000 visiteurs sur les deux jours.
Alors, ce qui est génial lorsqu'on entre dans ce salon, c'est le dépaysement total dès qu'on passe la porte.
Oui, c'est ça.
Puisque beaucoup de gens viennent pour le cosplay et se déguiser soit en troll, soit en guerrier.
Sur le cosplay, c'est que tu as le cosplay fantasy, heroic fantasy, t'as des elfes,
t'as des magiciens,
t'as le cosplay autant BD, manga, etc. Mm-hmm. Mais t'as aussi le cosplay médiéval historique. Donc des vraies personnes qui s'habillent en cuir, avec des épées et compagnie. Quoi. T'as un mélange de tout.
Parce que c'est vrai que le bâtiment lui-même, c'est une espèce de grand dôme un petit peu blanc, un peu moderne, etc. Et puis tu vois des gens qui sont habillés effectivement à la façon médiévale.
C'est un peu comme l'île Grand Palais en fait.
C'est un grand
hangar.
Et tu entres, tu as des artisans, t'as de quoi manger, t'as des gens qui effectivement se promènent, tu peux croiser des dragons, des monstres, etc. Des fois, ce qui est amusant de voir les enfants, c'est impressionnant quand ils réagissent à la rencontre des monstres. Tu peux te prendre en photo avec eux, bien sûr.
Donc beaucoup de boutiques justement pour s'acheter des petites épées par exemple, ou même l'univers cyberpunk est aussi assez présent et les boutiques cartonnent assez bien.
L'artisanat ne serait-ce que pour de l'hypocrase tout simplement.
Puisqu'il y a des vrais artisans qui confectionnent
le cuir,
encore
qui
à l'heure actuelle.
Sur les vieux alcools médiévaux, enfin il y a énormément de choses là-dessus.
Effectivement, le
médiéval
n'est pas mort.
Quand tu veux te restaurer à midi, tu peux choisir. Tu as des burgers, par exemple, mais tu as aussi, des menus médiévaux, etc. Tu as des bijoutiers, des artisans, tu as des gens qui viennent me faire leur pain. Tu as des forgerons. La dernière fois, il y avait un forgeron sur place qui avait sa forge et qui forgeait pendant deux jours, etc. sur place. C'est assez impressionnant.
Alors, ça va réunir généralement environ 30 000 visiteurs.
Ça, ouais, c'est ce qui est prévu.
Il y a du monde, mais on se sent pas forcément compressé. Il y a même un espace extérieur, justement, avec d'autres boutiques, même des démonstrations de combat à l'épée.
Exactement.
C'est fort sympathique.
Il y a des parties de jeux et de jeux de rôle dans la deuxième moitié du salon.
Voilà, et il y a une salle consacrée aux jeux de société, aux jeux de rôle. Mm-hmm. Donc, ça permet de découvrir, comme dans les autres salons, de nouveaux jeux. Ça permet d'en acheter aussi.
Il y a quelques boutiques où on peut faire des bonnes affaires. Oui.
Et il y avait aussi des gens qui montrent des jeux de société qu'ils ont créés. Il y a des protos aussi.
Il y a toujours un espace prototype. C'est pas forcément le but du salon parce qu'il est vraiment axé sur le côté médiéval. Je pense que maintenant tout le monde l'a bien compris.
C'est bien, c'est que
tu as quand même une petite zone.
Tu as vraiment un mélange entre tous ces domaines. Et puis il y a une grosse partie aussi avec il y a des invités qui viennent, des intellectuels, que ce soit au niveau cinéma, série et des écrivains et des bandes dessinées. Ça peut être des gens connus, mais ça va du petit auteur qui vient de sortir sa BD ou son bouquin ou son recueil de poèmes ou de etc. qui dessine, qui fait des autoportraits, des portraits sur le moment, à des grands artistes qui viennent et qui exposent, etc. Tout est possible et ils viennent proposer, montrer leurs œuvres, etc.
Apparemment là on a un grand artiste écrivain qui est Graham Masterton.
Ah oui, c'est un bon écrivain dans le côté horreur, plutôt
un
horreur,
peu dans
terreur,
la lignée Stephen King.
Oui, en fait, il écrit beaucoup plus vite et mieux que Stephen King de maintenant.
Parce qu'il faut renommer ses fans.
Voilà. C'est du style, il doit prendre la même drogue que Stephen King, mais en moins, tu vois. Il s'est moins tué le physique.
On aura aussi des gens qui ont pas vraiment travaillé dans Harry Potter. Il y aura la sauvageonne de Osha qui était dans Game of Thrones.
La comédienne qui a un nom pas possible, je ne vais pas le retrouver, mais c'est pas grave.
Et voilà, donc ça, c'est vraiment un salon qui peut plaire à tout le monde, puisque tout le monde peut y trouver son compte, mine de rien, juste pour la festivité médiévale, soit pour rencontrer ses auteurs favoris, soit pour faire des parties de jeu.
Il faut y aller au moins une fois dans sa vie, quoi.
C'est ça. Puis c'est pas très loin, c'est à Mons, l'auto-expo.
Alors, quand vous prenez. Alors, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Si vous commandez votre billet en ligne, c'est 12 euros l'entrée. C'est pas donné, mais c'est un salon qui vous refait le coup. Et sur place, par contre, c'est 15 euros. Donc, essayez d'acheter votre billet avant si vous comptez y aller.
Ça évite de faire la queue à la première.
Donc, tu vas faire la queue, mais cabane. Un peu moins. Mais tu vas économiser un petit peu, quoi.
Alors, moi, je vous propose justement de découvrir un de ces groupes rock. Qui est enfin ou métal ou celtique, on verra, on va choisir au hasard qui passe dans le festival et dans le salon Trolls et Légendes. Alors j'ai du Bal Noir, de la Boisson Divine. Est-ce que ça vous dit de se rafraîchir avec un peu de Boisson Divine?
Non, il parle de boisson, on en est forcément.
Allez, on y est tout de suite.
Blanc, misogyne, très hâte, chimdage, tout ce qu'on contemple.
c'était Boisson Divine.
Et donc, eux, ils sont en concert demain soir à 20h, donc dimanche soir. On reconnaît bien le mélange des instruments traditionnels avec la guitare, etc.
Alors, c'est du folk metal gascon. Voilà.
C'est pas mal.
Donc, vous avez pu entendre un peu de cornemuse landaise, de la flûte, de l'accordéon diatonique, qui se marie, bien sûr, sur un fond de métal et de musique et un chant polyphonique. C'est magnifique.
Alors, j'ai retrouvé le nom de la comédienne. Donc, c'est Natalia Tena, qui a joué donc dans Harry Potter. Elle joue le rôle de Nymphodora Tonks. Je connais absolument pas Harry Potter, donc me demandez.
En tout cas, son nom commence bien.
Voilà. et puis, dans Game of Thrones, c'est elle qui joue la Sauvageonne. Alors, est-ce qu'elle est encore en vie? Je ne sais plus.
Aucun spoiler.
Et autre invité d'honneur. Donc, cette personne-là, c'est comme tous les invités d'honneur, il y a moyen de les rencontrer, de prendre des photos avec, d'avoir des dédicaces. Si c'est des auteurs, de faire signer les bouquins, etc., il n'y a pas de problème. Autre nom connu qui vient, c'est Kevin Sorbo. Je lis l'indifférence dans les regards des autres. Mais il a joué dans Hercule, dans la série Hercule, dans la série Xena. Et maintenant, plus récemment, il a joué dans Hawaii Five-O.
Ouais, c'est le cadreur que personne ne voit. T'sais.
C'est le mec qui a mal vieilli dans Five-O.
Ils ont tous mal vieilli. De toute façon, tous les anciens acteurs de Hercule et Xena.
Alors, si vous êtes fan des univers médiévaux comme ça, vous avez aussi la possibilité de rejoindre un autre salon qui se déroule également du 20 au 22 avril. C'est la 24e édition des Croisades du Nord.
Alors ça, c'est un festival de jeux de rôle, une convention, on appelle ça, qui est organisée par les étudiants d'HEI à Lille, donc c'est rue de Toul. Ça a commencé aujourd'hui, pas hier, jusqu'à... C'est toujours le week-end de Pâques, donc c'est pendant 3 jours. Là, par contre, c'est quoi? C'est 1 € l'entrée, ça simplement. Et il y a des parties de jeux de rôle qui sont organisées. Vous pouvez arriver sur place, il faut peut-être réserver avant, mais vous pouvez arriver sur place, il y a des parties qui s'organisent toute la journée, mm-hmm. où il y a aussi des jeux de société, etc. Je vais peut-être aller faire un saut tout à l'heure, ou sinon lundi, quoi. C'est mon moment, tout le week-end, parce que demain, moi, je vais à Trolls et Légendes.
On pourra tous s'y retrouver là-bas.
Hein. Ouais, ça fait une paire de fois que je vais aux Croisades du Nord. Ils sont assez connus. Puis c'est toujours des étudiants qui se changent.
Enfin, ce qui est bien, c'est comme ils sont encore au stade de convention, on a toujours quelqu'un qui... On peut être simplement néophyte en jeu de rôle, on s'y intéresse. On veut tester, on veut regarder, on veut passer une bonne après-midi à découvrir le jeu de rôle, quel que soit le thème du jeu de rôle qu'on souhaite faire.
Il y a des créateurs qui viennent présenter leur jeu de rôle, il y a des boutiques, il y a des auteurs qui viennent faire signer leurs bouquins, etc. C'est plus près que Mons, c'est moins cher, c'est aussi sympathique.
Oui, et puis il y a une bonne ambiance, bon enfant. La dernière fois qu'on y avait été avec le dernier Kinder proposé à la vente des sucreries, ils le mettaient aux enchères parce que tout le monde le voulait. Enfin, c'est complètement what the fuck, c'est excellent comme ambiance.
Yeah. Si vous êtes un rôliste déjà aguerri, vous pouvez même venir et proposer d'animer une table de jeu de rôle, il n'y a pas de problème. Vous trouverez des joueurs sans problème.
C'est sympa, et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des jeux de rôle, dis donc. On travaille beaucoup sur les jeux de société, mais...
Mais peut-être préparation en cours.
Ah, attention. Et un dernier salon, et parce qu'on a presque un membre organisateur autour de la table. Oula. Il enlève sa veste pour montrer fièrement...
Le t-shirt officiel.
Web en jeu.
Alors, c'est la 4e édition seulement cette année. C'est encore un petit salon, mais jeune et petit, qui avait lieu les années précédentes à Labassé. Et maintenant, il a lieu cette année, c'est à Salomé. C'est vraiment juste à côté, donc c'est vraiment le voisin. À la salle Nowaki. Et ça... C'est le week-end du samedi 27 et dimanche 28 avril, donc de 10h à 18h, pratiquement, en gros, c'est ça. Donc là, alors, c'est une salle remplie, là, c'est beaucoup de jeux de société, il y aura aussi du jeu de rôle, il y a beaucoup d'associations qui viennent, il y a même un escape game qui vient, et avec des séances toutes les heures pendant tout le week-end. Là, il faut réserver ses places, c'est un escape game un peu familial. Et alors là, il y a des auteurs aussi qui viennent de la région et plus loin, des associations, il y a des boutiques, on peut manger sur place, mais si on peut jouer, il y a des jeux extérieurs, des jeux en bois, etc. Il y a des animations, il y a aussi une bourse aux jeux, donc on peut venir avec ces jeux, essayer de les revendre et en racheter de nouveaux, c'est ça qui est bien.
Alors, si vous n'en avez pas eu assez de Ludinor, ou si justement vous n'étiez pas là, bah, n'hésitez pas, Web en jeu, ça sera le moyen de retrouver des joueurs et participer à toutes
à
ces animations.
Des nouveautés, il y a tellement de jeux de plateau qui sortent maintenant que tout jouer c'est impossible, donc profitons de ces week-ends de festivals et de salons pour les tester.
Mais du coup cette quatrième édition a bien grandi par rapport aux premières.
La toute première c'était dans une petite salle, il y avait quelques salles, et puis ensuite on est passé à la salle de sport pendant 2 ans, et ensuite maintenant c'est dans une autre salle. Mais ce qui est bien, c'est un peu comme le salon ludique qu'on avait évoqué dans notre première, c'est des salons qui ne veulent pas forcément devenir trop gros. Parce que tu vas perdre une partie du plaisir, enfin le fait de garder une dimension petite, on va dire modeste comme ça, mais avec quand même la motivation d'avoir des invités, des bons invités, etc.
Est-ce que c'est toi-même qui choisis à quel point tu vas être gros? Enfin, si tu as de l'affluence énorme, t'es obligé de t'agrandir forcément.
Si t'as du succès, c'est bien, mais c'est pas évident.
C'est vrai, quand on voit Ludinor de où ils sont partis, et la dernière édition, il y avait des salles partout.
Exactement, voilà. Ça déborde.
Voilà. Donc Dom dit, on ne va pas trop grossir, et puis tu vas voir que l'année prochaine, elle va te dire, bon, maintenant on a 2 salles.
Voilà, une à la basse et une à la sommet.
Et va entre voilà. Chaque salle tous les 5 minutes.
Ça, c'est terrible. Pour revenir sur l'escape game qui est organisé, c'est la compagnie d'Arpont-Lieu, c'est une compagnie de Dourges qui fait ça. Et donc, il y a une séance, ça dure à peu près 40 minutes, donc c'est déjà un bon petit jeu sérieux. Donc, entre 4 et 7 joueurs, donc vous pouvez venir en famille, il n'y a pas de problème.
Ils ont déjà révélé le thème de la salle ou pas?
C'est une compagnie théâtrale. Il faut que ça tienne à la fois de l'escape game et un petit peu du spectacle, et d'improvisation, etc. Donc, ça va avoir le coup.
Moi, je ne les connais pas encore personnellement. Généralement, dans les escape games, tu as quelqu'un qui supervise un peu la salle et qui soit écrit sur un écran, soit... parle dans un talkie pour te donner quelques informations. Mais là, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des acteurs qui participent dans la salle.
Il va y avoir un décor complet. Est-ce que ça sera un mélange entre une pièce de théâtre et d'escape game?
Tu as déjà un escape game sur l'île actuellement, qui le maître du jeu, comme on dit, celui qui nous oriente et qui nous surveille en même temps pour être sûr que tout se passe bien et qu'on a au moins un petit plaisir de jeu, endosse un rôle et qui l'endosse dès qu'il nous accueille.
Il fait le mort dans la pièce pendant une heure.
On l'entend ronfler, mais
et de temps en temps, il chuchote. Ouais. Non, voilà.
Pour spoiler un peu, le escape game s'appelle Templier. Et apparemment, il va falloir essayer de s'échapper. Sinon, on va passer à l'échafaud. Oh. On a 40 minutes pour s'échapper, pour sauver sa tête, en fait.
Et si t'as perdu, on fait une photo de toi, mais juste avec ta tête.
Juste la tête.
Ça, c'est sympa. Allez, on va enchaîner sur un autre domaine, celui du jeu vidéo. Et la semaine dernière, on vous avait évoqué un nouvel Elder Scrolls et on n'avait pas caché notre enthousiasme et notre impatience quant à tester ce magnifique jeu. Et on l'a fait.
Donc, on l'a fait.
Entre parenthèses, nous avons testé Elder Scrolls Blades.
Moi aussi, ça fait longtemps que je voyais cette annonce, Blades, qui va sortir, on va pouvoir jouer sur tablette, sur téléphone.
Un jeu mobile, tout ça.
Donc on va tout mettre à plat, on va tout dire. Donc j'ai envoyé la semaine dernière, j'ai envoyé à tout le monde, on va tester Elder Scrolls Blade, ça y est, il est ouvert, installez-le sur votre mobile.
C'est gratuit et tout, c'est parfait.
Et j'étais surpris lorsqu'on s'est vu récemment que personne n'y avait joué, à part moi.
Faut que l'on ait le matériel adapté.
J'ai un téléphone portable qui n'est pas si vieux, quoi.
Pareil.
2-3 ans, j'ai une tablette qui est un peu plus vieille mais un peu plus puissante, et j'ai même l'ordinateur qui est un Chromebook, donc je peux faire tourner des applications et des jeux Android dessus normalement.
Eh ben non, il y a une liste de smartphones.
Aucun de mes appareils n'était apparemment compatible, voire assez puissant quoi, pour le faire tourner.
Et j'ai envie de dire, pour vous, tant mieux, parce que l'enthousiasme est très très vite redescendu lorsqu'on a testé cette version mobile. Alors, pourquoi est-ce que ça sort? C'est notamment en parallèle avec les 25 ans que fait Bethesda pour Elder Scrolls. Alors Dom... Tu es peut-être un des seuls qui a retourné le premier Elder Scrolls.
Alors, non, moi j'ai commencé par le 2 qui s'appelait Daggerfall. Et j'ai rejoué au 1 qui s'appelait Arena au tout début. Tu ne vas pas résumer 25 ans de Elder Scrolls en 2 minutes, c'est pas possible. Il y a eu, et le plus connu, je pense que c'est le 3, Morrowind, celui qui a le
qui a mis le pied dans le jeu, dans tout le monde.
Mais voilà, qui a marqué une... Il y a un avant et après Morrowind, que ce soit dans la série des Elder Scrolls et des jeux Bethesda, et même dans la communauté, on peut dire, du jeu de rôle sur PC, pratiquement. Comme ça.
C'est ça, et on l'avait mentionné, que même dans les nouveaux Elder Scrolls Online, ils reprennent les parties de Morrowind. Mm-hmm. Et là, cet Elder Scrolls Blades, ce qui se base majoritairement sur un jeu Android, et en tout cas, là, il est disponible sur Android et iOS, mm-hmm. ce qui veut dire qu'il y aura une jouabilité, et on l'a testé, qui va être particulière au mobile. Alors... On va être honnête, pour frapper, il suffit de rester à pied, de relâcher, et puis le coup part. Alors, faut essayer de viser le petit rond. Et pour vous déplacer, vous cliquez où est-ce que vous souhaitez.
Le maniement d'un jeu, pour moi, n'exploite pas du tout le côté tablette. Ça, c'est plus adapté à un jeu sur ordinateur ou avec une souris, enfin, et un clavier, ou même pas la manette, quoi. On peut pas jouer à ce genre de jeu à la manette, parce qu'on se dirige dans un environnement en 3D immersif. Pour moi, c'est pas encore adapté.
Se balade souvent dans des grottes ou dans des petits donjons, ce qui fait que dès que vous tournez, vous vous retrouvez collé à un mur et vous pouvez pas tourner et vous déplacer en même temps, ça devient catastrophique. Le maniement n'est pas fait.
C'est vide.
Et n'est pas à faire.
Tu m'as passé ton téléphone, mais moi, j'ai abdiqué au bout de 30 secondes, quoi. Je peux pas. Je veux pas jouer à un jeu prévu pour PC ou sur un téléphone ou même une console. Et inversement, je veux pas jouer à un jeu prévu pour console sur un PC.
Après, si le partage est bien fait, le long débat. Mais le souci, c'est que Skyrim est sorti depuis tellement longtemps qu'on était un peu en mode fanboy à vouloir attendre un nouveau Elder Scrolls.
Tout à fait, ouais.
Et en se disant, enfin un nouveau truc, enfin la hype du moment, et dire, voilà, on va rejouer un super jeu, Morrowind, Skyrim, etc.
Heureusement, il est gratuit, même gratuit, ah ouais. Mais non.
Mais non, tu n'as pas le plaisir de l'aventure. Et c'est ça le souci.
Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le plaisir à l'aventure? Puisque la jouabilité n'est pas le seul défaut. Le gros défaut, c'est que le scénario se base sur, est assez simple. Vous arrivez et votre ville a été rasée, incendiée. Et vous allez devoir tout reconstruire.
Ça,
et pour reconstruire, vous allez faire des petites quêtes, vous allez récupérer du bois, et ensuite, vous allez reconstruire bâtiment par bâtiment.
C'est les Sims Elder Scrolls, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Il y avait une version Simpson
aussi.
C'est
SimCity, SimCity, Sim Elder Scrolls.
Non, il n'y a pas de SimCity, il n'y a pas de gestion du tout. Et donc, chaque paysan va vous donner des quêtes. Sauf que... Lorsque vous acceptez la quête, vous êtes directement téléporté dans le donjon.
C'est ça qui est nul. Quand tu joues à un Skyrim, à Morrowind, n'importe quoi, tu vas voir un bonhomme qui a un problème. Moi, j'ai perdu ma femme, elle est perdue dans les bois. Est-ce qu'il faudrait la rechercher? J'ai perdu mon épée magique ou mes ancêtres avaient une relique et elle est au fond d'un donjon capturée par des petits. Voilà, je peux y aller ou je peux peut-être aller ailleurs. Ouais, je m'en moque.
Le plaisir, c'était de lancer la quête principale et ne jamais la faire parce que tu avais tellement de quêtes entre temps que. Tu avais même oublié la quête principale de base, quoi.
On se baladait, on observait les décors, on récoltait des fleurs et des champignons pendant des heures.
Tu remplissais tes sacs de plantes, etc. pour faire des potions que tu n'utiliseras jamais.
Et ce côté de découverte est un des éléments essentiels quant à l'intérêt qu'on portait dans les sagas Elder Scrolls, qui a totalement disparu. Aux abonnés absents, en addition d'une jouabilité lamentable, hein, je le répète parce qu'il faut vraiment le dire, et ensuite, on n'a qu'une classe, on est guerrier. Parce qu'on ne lance pas de...
Je ne t'ai même pas demandé si la batterie de ton téléphone partait deux fois plus vite.
Bien sûr qu'elle part deux fois plus vite. Enfin, c'est évident.
Je n'ai pas senti de chauffe particulière, mais bon, ça se dépend des téléphones.
Non, sur les nouveaux téléphones, la chauffe est quand même mieux gérée. Enfin, je trouve.
Des processeurs graphiques plus puissants.
Comparé aux autres jeux où tu jouais, et puis dès que tu recevais un appel, tu te brûlais l'oreille.
C'est ça.
Parce que t'avais trop joué. Non, voilà, une très grosse déception. Ça plaira peut-être à certains joueurs, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre d'un jeu mobile d'être comme un jeu PC. Mais dans ce cas-là, autant pas le faire.
Quelqu'un qui n'a jamais eu d'ordinateur ou de console, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble à Elder Scrolls en 3D. Dommage.
Et Rénal va me rejoindre sur ce point. Si vous voulez vraiment avoir l'univers d'Elder Scrolls sur votre mobile, jouez au jeu de cartes Elder Scrolls Legends.
Ah non, mais tout à fait. J'ai essayé d'installer Blades sur mon téléphone alors que j'ai changé de téléphone en décembre dernier, donc c'est pas un vieux non plus, hein, c'est récent. Et que le Play Store m'a dit t'es gentil, mais ton téléphone n'est pas adapté pour le jeu. J'ai simplement dit fuck up, j'ai réinstallé Elder Scrolls Legends, quoi. Au moins ça tourne très bien, tu joues. T'as l'univers d'Elder Scrolls, mais avec tes cartes. Pourquoi aller s'embêter avec Blade, quoi?
Voilà, bon, on passe. On passe notre tour sur Blades, on le réinstalle. Et apparemment, il y aura des modes PVP, mais...
Même pas la musique,
non,
ni rien. Bon,
non,
okay.
Non, non. Par contre, non, pas la musique d'Elder Scrolls. Par contre, on peut se réécouter un peu de musique qui va passer à Trolls et Légendes. On va parler de Bal Noir. C'est encore un groupe qui va se produire à Trolls et Légendes, en vérifiant s'ils sont déjà passés ou non. On va s'écouter The Other. Dom, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce magnifique groupe qui est Bal Noir et qui est passé hier au festival de Trolls et Légendes ?
Alors c'est un groupe néerlandais. Alors c'est du da. Alors c'est en gros de la musique de bal dark, du dark back folk, bal, la bal folk, folk bal. Hein. C'est compliqué. Hein.
Ou les deux.
Ouais, là, les deux sont acceptés.
C'est ça. Ils sont passés hier à 20h. Il y a un, ouais, c'est un petit, tout un mélange de. Ils sont très orientés musique de danse, etc. Donc c'est vraiment musique pour animer les balles. Voilà, si vous avez un mariage, ou, ça peut être sympa de les avoir. Bon, faut s'habiller en noir. Hein. Mais, c'est la seule condition, mais pourquoi pas.
Et apparemment, ça bougeait bien hier à Trolls et Légendes lors de ce concert. On en écoutera hein, d'autres, hein, puisqu'il y a des concerts tous les soirs. On, bien sûr, on ne pourra pas tous les passer. Hein, c'est pas grave, mais on pourra les redécouvrir.
Il y a encore des concerts ce soir et demain soir. Donc.
On aime bien passer de la bonne musique. En plus, Reynald est content parce qu'il y a un petit côté métal et je vois qu'il il apprécie tout particulièrement ces passages.
Toute la programmation, c'est sur le site Trolls et Légendes, tout collé, j'allais dire en un seul mot, mais Trolls et Légendes avec des S partout. Slash.com.
Allez, on va enchaîner puisque c'est vrai que l'affaire ou le drame de Notre-Dame de Paris a ému beaucoup de gens. Et notamment des sociétés de jeux vidéo qui ont décidé, ben, justement, suite à cet incendie, de proposer un jeu gratuitement. Voilà, pour montrer leur soutien.
Oui, alors je ne sais pas si c'est pour profiter du buzz ou je ne sais quoi, mais enfin, c'est un jeu très très connu, hein, parce que c'est Assassin's Creed qui est édité par une société française, Ubisoft, Cocorico. Depuis des années, je ne sais pas à combien d'épisodes, de quand date le premier. J'ai jamais joué, moi, personnellement.
Et là, on parle de la version Unity.
C'est ça, l'une des dernières versions, et qui avait fait parler d'elle, parce que ça fait plusieurs fois que Assassin's Creed, on joue le rôle d'une espèce de lignée d'assassins à travers toute l'histoire. Et chaque épisode se passait à une période particulière. Bon, en général, c'est des périodes un peu chaudes, hein, l'époque des Templiers. Là, par exemple, Unity, ça se passait au moment de la Révolution française, c'est à ça. Paris. Et là où, au fur et à mesure des éditions du jeu, le jeu a progressé, c'est dans la fidélité graphique et
historique,
sonore et historique. Ouais. Ils ont même été reconnus, ils ont des prix dans le monde. En France, ils ont eu des prix remis par des historiens qui les ont félicités pour leur travail de reconstitution. Puisque pratiquement, même si tu étais étudiant en histoire, tu pouvais presque utiliser le jeu, trouver comme prétexte de jouer au jeu pour réviser tes cours d'histoire, pratiquement.
En même temps, même si tu t'intéressais pas justement à ce type de jeu-là, tu n'entendais parler que pour ça. Plus pour le gameplay du jeu, tu n'entendais que ça. La fidélité historique
le game design. Le jeu lui-même n'était pas forcément super intéressant à la base, mais c'est vrai. Et donc, là, ce jeu avait fait parler de lui et à l'occasion de... Il y a notamment la reconstitution dans le jeu vidéo de Notre-Dame de Paris.
Exactement.
Avec quelques petites erreurs au passage, puisque la fameuse flèche que tout le monde a vu s'écrouler en direct n'était pas, au moment de la Révolution française, n'était pas encore construite, alors qu'elle est dans le jeu. Bon, il y a des petites erreurs comme ça, mais c'est pas grave. Mais quand tu te promenais dans le jeu, tu pouvais même, avec ton personnage escalader la Notre-Dame de Paris, c'était à la brique près, c'était ça, quoi.
Alors voilà, là, justement, on parlait de fidélité dans le jeu, et là, c'était vraiment le cas, puisqu'il y a une artiste qui travaillait donc pour Ubisoft, qui s'appelait Caroline Muse. Elle a passé 2 ans à juste modéliser le bâtiment Notre-Dame. Et d'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube où elle a réussi... Enfin, toutes les structures sont détaillées, comment l'échafaudage était fait, etc. Ce qui fait que, ben, pour la reconstruction, Ubisoft risque de... C'est vraiment un travail de récupération.
Ils ont mis à disposition les personnes qui ont travaillé sur Notre-Dame à ce moment-là.
Mais il y a d'autres sociétés dans le monde qui sont spécialisées dans le fait de reconstituer en 3D avec des lasers, des capteurs, etc. Reconstituer en 3D le modèle parfait de ta maison actuelle, etc. Ouais. Si tu veux, ou ton bâtiment. C'est surtout pour le patrimoine, quoi, les bâtiments du patrimoine. Et au moment de, juste après la catastrophe, il y a ce jeu-là, mais il y a aussi d'autres jeux qui se passaient à Paris ou qui a présenté. Et on a vu des vidéos sur YouTube de gens, de streamers, de joueurs, de qui se sont amusés, qui se sont filmés, on dirait, qui diffusaient le fait, ils se sont amusés à recharger le jeu et à grimper tout en haut de la Notre-Dame de Paris, la partie disparue. Et donc il y avait des milliers de gens qui venaient voir ça, quoi, des streamers connus ou pas, quoi. C'était une espèce de le truc à faire en ce moment, quoi. Tu pouvais pas aller sur place, mais donc tu allais dans le jeu vidéo revisiter et escalader la fameuse flèche de Notre-Dame de Paris. Et donc, Ubisoft, dans un geste de pure
générosité, bien sûr, aveugle,
a dit, écoutez, le jeu, tout le monde part de notre jeu, on va le donner gratuitement. Alors, je ne sais pas combien le coûte le
tu
jeu.
Tu crois qu'ils auront des déductions d'impôts aussi
non,
sur leur jeu.
Il a tellement été rentable que maintenant, ils peuvent le laisser gratuit, aucun souci.
Ouais, il y a sûrement de l'achat in-game, du coup, si c'est gratuit ou
pas. Oh, sans doute, mais là, tu n'es pas obligé. Parce que moi, du coup, j'ai vu ça, je dis, je vais essayer. Puis au moins, je verrai. J'ai un vieux PC, je vais voir s'il tourne dessus. J'ai lancé. Il suffit d'aller sur le site d'Ubisoft, donc c'est ou le ubi.com, etc. Puis vous aurez forcément un lien qui sera dans les premiers liens que vous arriverez pour télécharger le jeu Assassin's Creed Unity Notre-Dame gratuitement. Moi, je l'ai installé, j'ai fait un compte, et j'ai téléchargé le jeu au début, et j'ai pu jouer, etc. Au début du jeu, juste pour tester, pour voir. Bon, ça tourne sur mon PC, donc déjà, qui est un vieux PC, donc ça peut tourner sur le jeu. Au moins, pour le geste, le fait de... Parce que moi, Notre-Dame, oui, ça fait longtemps que j'y ai parlé, je suis passé devant la dernière fois, peut-être une rampe, il y a quelques années, quand j'étais petit, je suis entré dedans, etc. Donc, c'est un monument qui tous les Français connaissent, enfin, même pas tous les Français, mais tous les habitants de la planète.
Bon, allez, le monde entier, vas-y.
Ne serait-ce que d'un point de vue littéraire, cinématographique.
J'ai peur que tu dises
pas musical. Non, je n'irai pas jusqu'à dire musical, faut pas pousser.
Mais d'ailleurs, il y a une pétition qui traîne pour faire revenir la comédie musicale.
Mon Dieu, les mauvaises nouvelles, on entend plein de...
Mais Garou, il s'ennuie en ce moment, c'est la bonne occasion.
Tu veux dire qu'il a des impôts à payer, donc ça lui permettrait d'avoir des réductions d'impôts.
Il a fait un don sûrement.
Ouais, sûrement.
66%. Hein.
Justement, pour les appels aux dons, lesquels choisir, parce qu'il y en a tellement.
Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que des pétitions et des demandes de dons ont été faites justement
pour... Des cagnottes.
Des cagnottes, merci.
Le mot à la mode, des cagnottes.
Donc, ça s'est lancé grâce à tous ces beaux sites qui nous permettent de récolter de l'argent, tels que Kickstarter, etc.
Etc., voilà.
Voilà,
adopteunecathédrale.com.
Sauf que beaucoup de gens...
J'ai reçu des messages de PayPal moi qui me disaient ça vous dirait de participer.
PayPal a mis en place justement une petite cagnotte en disant tu fais un don mais ça part directement là-bas. C'est au moins une structure un peu plus sérieuse que justement les appels aux dons qu'on voit à droite à gauche popper sur les messageries.
Donc il y a deux problèmes, on ne sait pas qui va récupérer l'argent.
Ouais.
Mais il y a aussi le fait que la plateforme Litchi, elle prend une
petite commission.
Exactement.
Ouais, mais peut-être que pour ce genre de cagnotte, ils ont peut-être la possibilité de dire on prend rien. Je sais pas.
Non, ils vont étudier le cas.
Ils vont étudier le cas.
Ils sont gentils. On va pas non plus voir de l'argent passer sans en prendre un peu. Hein. C'est le but
si
de ces plateformes.
Si vous voulez vraiment donner et participer, il y a des cagnottes officielles.
Mais c'est un gros problème qu'on voit sur les plateformes telles que Ulule. Je me souviens quand la série Noob avait fait son projet sur Ulule, ils avaient récolté tellement d'argent que la commission que récupérait la plateforme était tout simplement aberrante pour le service qu'ils proposaient. Du coup, là, on arrive sur un gros problème. Et en plus, après, il faut que PayPal paye. C'est encore un autre.
Et leurs impôts en France, tu veux dire ? Peut-être, je ne sais pas.
Mais voilà,
PayPal, non.
Il y a ce système de commission qui est assez mal foutu lorsque vous avez vraiment des grosses sommes qui arrivent. Imaginons que eux vont se faire une commission sur les 1 milliard, voire plus. Ça fait plaisir, hein, mine de rien.
Heureusement, il n'y a pas que.
On va continuer avec d'autres petites actualités, ou en tout cas des phénomènes de société.
On va pas passer d'extrait de la comédie musicale, alors
non. Si t'insistes, Dom, attention.
Parce que je sens qu'il y a des albums, découvertes en puissance qui vont arriver, des albums hommages, etc.
Oui, déjà, on a des sacrés artistes qui ont déjà fait des hommages.
D'ailleurs, le livre de Victor Hugo...
Il est gratuit ?
Non, ça y est. Ah, remarque, il est dans le domaine public, donc théoriquement tu pourrais l'avoir gratuitement, mais l'on les vente, il y a eu des films, il y a eu le dessin animé de Walt Disney que tous les enfants d'une certaine génération connaissent, mais avant il y a eu d'autres films, je me souviens de Anthony Quinn qui jouait le rôle de Camille Zimodo dans une vieille version des années 50, et c'était Sophia Loren qui jouait Smeralda, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était
là, vous avez une idée de l'âge de Dom.
Pas du tout, mais c'est des classiques ça.
Allez, on va changer complètement de sujet, ça reste toujours un peu dans le domaine, j'ai pas envie de dire arnaque, mais où les gens, on ne s'attend pas, par exemple, avec Amazon, puisque on a de plus en plus de personnes qui achètent ces petits boîtiers,
assistants personnels, c'est comme ça que ça s'appelle, des mouchards.
C'est qu'on appelle Alexa ou Google à la sienne aussi.
Google Home.
Voilà, qui vous permettent, grâce à cette boîte qui est dans votre maison, cette petite enceinte, voilà, tout simplement, une petite enceinte, vous parlez, Alexa, j'aimerais commander du pain. Et Alexa va elle-même faire une commande de l'objet sur Amazon ou
elle
autre.
Va appeler ton boulanger local, je ne sais pas.
Ou je voudrais que tu me mettes telle musique, mets-moi du blues. et cette petite enceinte va vous passer de la musique blues.
Si tu as des appareils connectés chez toi, comme des ampoules programmables ou même tes radiateurs, etc., tu peux dire, tu peux l'appeler à distance. C'est vraiment de la domotique.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Assez facile.
Si tu n'as pas envie de mettre ça en place, tu peux justement acheter une enceinte comme ça et te mettre ça en place doucement.
Je comprends très bien ça si tu as une mobilité réduite.
Ah oui.
Là, ça devient extrêmement pratique. Mais la majorité des gens qui achètent ça, c'est juste parce qu'ils ont maintenant la flemme d'aller appuyer sur le petit bouton pour éteindre la lumière.
Ça, on en parlait au journal de 20h. Elle dit, oh, tiens, ça peut être rigolo. C'était le cadeau idéal pour la famille à Noël, même si ça ne s'est pas donné non plus.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une enceinte connectée dans sa maison? Tout simplement, elle sera à l'écoute en veille, puisque seul mot qui va le déclencher... Alors, déclencher entre parenthèses, puisqu'elle est toujours active, ça sera de dire son nom. Alors, peut-être que vous pouvez le customiser, au cas où votre chien s'appelle Alexa.
C'est pas faux. Ou ton enfant, ou t'as une fille ou une femme qui s'appelle Alexa.
Donc,
même Alex, ça doit marcher déjà.
Cette enceinte reste connectée tout le temps, et les gens se sont dit, c'est pas grave, c'est pas gênant. Sauf que elle est connectée.
Et oui.
Donc, Amazon est capable de récupérer toutes les conversations, même si l'enceinte n'a pas été activée. Et c'est ce qu'ils font. Donc il y a des gens chez Amazon qui sont payés justement pour écouter à longueur de journée des communications d'Alexa. Alors c'est...
Le moindre son enregistré. Mais je pense, mais tu dis conversation, mais imagine quand tu rentres chez toi, si tu as une alarme à code chez toi, en général ça fait des bips, etc. Peut-être qu'il est capable de détecter, je pars un petit peu loin peut-être, mais bon...
Non, mais si on a volé ton enceinte, peut-être tu peux demander à Amazon de récupérer le fichier audio, au moins pour entendre la personne qui est venue chez toi, peut-être ça peut te donner des indices, mais je pense pas que c'est le cas, puisque toutes ces données sont bien sûr privées.
Absolument.
Et ne sont pas du tout utilisées.
J'ai entendu une remarque amusante l'autre jour, tout ça, c'est les données sont stockées de façon anonyme. Ça veut dire qu'elles sont stockées... Et tu sais pas qui les utilise. C'est ça qui est anonyme. Ceux qui sont anonymes, c'est ceux qui stockent les données qui les utilisent. C'est pas toi.
C'est vrai. Et du coup, il y a eu des petits soucis avec cette enceinte, puisque ceux qui écoutaient chez Amazon, quelquefois, avaient des scènes qui étaient plus ou moins... Enfin, quelquefois, c'est des sortes de viols qu'ils pouvaient entendre comme ça.
Ça pouvait supposer une agression agression sexuelle.
Si tu as un film, tu as mis un film à la télé ou une chaîne, ça le fait exprès, puis tu sors. Est-ce que la Alexa va savoir si c'est un film qui est en train de s'éroder et tu entends des coups de feu, une scène de braquage de banque?
Elle va enregistrer tout bruit qu'elle entend, et après c'est les personnes derrière qui écoutent qui vont faire la différence entre une télé.
C'est sûr qu'il y a des gens qui s'amusent, tu mimes chez toi des fausses scènes d'agression, etc., pour voir est-ce que les employés d'Alexa, de Amazon, ou Google ou autre, vont réagir.
Je pense pas, parce que les employés dans ces cas-là n'ont pas réagi.
Certains ont remonté les infos à leur, hiérarchie. Mais ça n'a jamais donné suite.
Tu n'es pas censé les utiliser, donc tu ne les utilises pas. Hein.
Peut-être qu'un jour, un juge, dans le cadre d'une affaire, dira « Ah, la victime avait un Alexa ou un Google Home ou un Apple Home, je ne sais pas quoi, chez lui. Est-ce qu'on pourrait demander à la société de nous fournir les enregistrements qui n'existent pas ?» etc.
Je ne pense pas, puisque Apple avait refusé entièrement de débloquer un iPhone. Parce qu'il y avait des données sur un criminel. On restera bloqué, je pense, au niveau de la légalité.
Que les lois, pour l'instant, ne sont pas encore à jour à ce niveau-là.
C'est surtout ne pas montrer comment sont stockées des données soi-disant anonymes pour révéler tout ça.
Elles sont anonymes. Ouais. Tu ne sais pas où elles sont.
En fait, tout le monde sait que ces sociétés les ont, mais on ne sait pas comment ils les stockent, comment elles sont gérées. Et c'est ça le plus important.
Voilà, donc faites attention si vous avez une enceinte Alexa chez vous. Ou ne la mettez pas dans votre...
Donnez-la, offrez-la à votre pire ennemi.
Ne la mettez pas dans votre chambre, juste au cas où.
Ou alors faites du troll avec, amusez-vous.
Encore une petite news qui est pas forcément réjouissante. C'est un homme qui est écopé de 20 ans de prison après avoir fait un canular. Alors, il se révèle que ce canular s'est tourné de façon mortelle. Et tout cela à cause d'un pari en ligne qui était fait sur le jeu Call of Duty... Un pari de 1,5 $. Alors faites attention lorsque vous faites des paris en ligne,
même si la
somme
crise, est... C'est la crise, 1,5 $, c'est beaucoup.
Alors le pire dans l'histoire, c'est que un joueur qui s'appelle Tyler Barris, s'est embrouillé comme ça avec une personne et il a engagé...
Comme sur tous les jeux vidéo, quoi.
il a payé une personne justement pour faire une blague, pour faire ce qu'on appelle du swatting. Alors, le swatting, qu'est-ce que c'est? C'est justement quand le SWAT...
Le SWAT, donc c'est l'équivalent du GIGN ou...
Voilà, tu fais une fausse déclaration de qu'il se passe quelque chose chez quelqu'un pour aller faire une intervention du SWAT. Mais nous, ici, c'est police et pompiers.
Là, par exemple, si quelqu'un a trouvé notre émission absolument impossible, il dit, j'en ai marre, ils font n'importe quoi, c'est quoi cette musique qui nous passe, eh ben, il fait un appel au GIGN ou à la police, et c'est en disant, dans les studios de récupération, en ce moment, j'ai vu un gars louche entrer avec une ceinture d'explosif, etc. Et on peut être sûr que dans les 5-10 minutes, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va interrompre. Voilà, la police va arriver en force et bombarder, de remplir le studio de gaz à lacrymogène, etc. C'est un moyen d'arrêter. Et c'est ce qui se passe dans les jeux vidéo. C'est pour faire des farces, ou si tu es en train de jouer à un jeu vidéo contre quelqu'un qui est en train de te battre, soit pour une espèce de tricher, et si tu arrives à récupérer son adresse, et ben tu envoies la police chez lui.
Ça, c'est déjà vu plusieurs fois.
C'est vu plusieurs fois, voilà.
Il y a eu une mode il y a quelques années, ouais, sur YouTube.
Sauf que là, le souci, c'est que la personne, quand elle a entendu qu'on sonnait à sa porte et qu'elle était entourée par le SWAT, est sortie et elle s'est fait abattre, tout simplement.
Ah oui.
Donc voilà pourquoi l'autre a écopé.
Laisse-moi deviner, c'est au Texas.
Il était quoi? Il était en uniforme. Il avait son. Il était en mode cosplay.
Il était en cosplay. Il allait troller les gens. Merde.
Il avait un fusil en plastique pour lui, pour faire comme dans le jeu vidéo.
Non mais je pense qu'aux États-Unis, ils tirent plus rapidement. Et après, ils réfléchissent et se disent zut. Il n'avait pas l'air dangereux celui-là. Donc il y a des blagues qui peuvent tourner mal. Et encore une fois, 1,5 $. Ça fait quand même un peu mal. Pour le parler en ligne, sur Call of Duty. Attention, hein, pour rajouter encore à la sentence
déjà,
finale.
Il y a encore des gens qui y jouent.
C'est vrai, tout le monde n'est pas sur Fortnite.
Ils profiteraient du buzz? Oh non, c'est pas possible, je crois pas. C'est quoi, c'est Electronic Arts qui fait Call of Duty? Tout le monde se moque tellement de leur jeu que maintenant ils sont obligés de faire du buzz comme ça.
Peut-être.
Jeu vidéo, on risque vraiment sa vie.
On arrive tout doucement à la fin d'émission et Dom voulait nous parler un peu de fitness. De prendre soin de son corps, et tout cela en suivant sa passion d'un animé, en tout cas d'un manga qui est assez connu.
Pour les gens qui ne connaissaient pas le One Punch Man, l'anime, le manga et le dessin animé japonais à la mode, qui cartonne depuis 2-3 ans maintenant, on va dire, un petit peu plus longtemps. Ouais. À l'origine, c'était créé par un dessinateur qui s'appelle One. C'est un dessinateur japonais qui faisait des aventures d'un super-héros. Alors ça s'appelle One Punch Man tout simplement parce que le héros est tellement fort qu'en un coup de poing, il est capable de tuer tous les monstres, tous les ennemis qui se font.
En juste un coup de poing.
En un coup de poing. Des fois moins, mais un coup de poing.
Alors, du coup, il en est blasé. Ouais.
Ça rend tous les épisodes assez comiques parce qu'on s'attend justement dans ces types de shonen, etc., à avoir des combats durés, puis le personnage qui n'y arrive pas et puis s'entraîne pendant des mois et des mois.
En fait, c'est ça, quoi. Alors, c'est vraiment un héros, enfin, c'est un employé costard-cravate, un jeune employé, une vingtaine d'années, etc. Et il s'ennuie, il aimerait bien devenir super-héros, puis un jour, il croise un monstre, etc., dans les villes de Tokyo, et il arrive à le battre, etc. Il dit, j'ai peut-être moyen de devenir un super-héros. Et il décide de s'entraîner à mort. Et il invente une espèce de régime de préparation physique. Tous les jours, il fait 100 pompes, il fait 100 squats, il fait 100 abdos et il court 10 km. Chaque jour, il fait ça pendant des années.
Qu'il ait mal ou pas, qu'il ait un os cassé ou pas, il le fait.
Il n'y a pas de problème. Au début, il galère. Et cet entraînement est tellement dur qu'il devient super fort. Mais il y a un effet secondaire, c'est qu'il a perdu tous ses cheveux. Donc, on se retrouve avec un héros chauve, avec un costume un peu ridicule qu'il s'est fait lui-même, etc. Avec des bottes. Enfin, il est risible, quoi. Sauf que...
Pourquoi le sport fait perdre les cheveux?
Oui, mais ça cherche pas.
C'est un animé, d'accord.
Voilà. C'est plus facile à dessiner avec un chauve qu'autre chose.
Déjà, c'est plus facile. Peut-être que l'auteur ne savait pas dessiner les cheveux. Bah voilà, c'est tout. Hein. Et donc, il devient tellement fort qu'en fait, même les monstres géants, Godzilla, je sais pas quoi, qui seraient capables, il les tue en un coup et il s'ennuie parce qu'il trouve plus d'adversaires. Et c'est parti pour des aventures de folie parce qu'il y a plein d'autres super-héros. Bah, bref, on va pas résumer One Punch Man. Vous demandez à vos enfants, ils connaissent par cœur. Il y a la deuxième saison animée qui vient de commencer d'ailleurs. Bon. C'est sorti en français, ça doit être chez Glénat, si je dis pas de bêtises, en manga. Et il y a des gens qui se sont dit, ce fameux régime sportif qui a été inventé, est-ce que ça marche ou pas? Il y a même un groupe Facebook, le One Punch Man Challenge. Et il y a notamment un jeune patron, je crois qu'il est américain, il est chinois, je crois, qui s'est dit, eh ben, je vais l'essayer pour de vrai. Puis il fait filmer sur YouTube. Et il a mis au premier jour, on le voit, bon, il est à peu près normal.
Il a une petite bedaine,
etc. Mais bon, et il s'est dit, eh ben, je vais, pendant un mois, je vais faire le fameux régime. Sauf qu'il n'a pas commencé tout de suite au maximum. Il dit, pendant trois jours, je vais faire 10 pompes, 10 squats. Et 1 km à pied, etc. Puis au bout de 3 jours, je vais augmenter, je vais passer à 20 pompes, etc., 2 km. Puis au bout de 10 jours, 30 pompes, 3 km, jusqu'à au bout de 30 jours, arriver à 100 pompes, 100 squats, etc., et 10 km à pied. Il faisait pas forcément de sport, il marchait au quotidien, mais c'est tout, quoi, il faisait pas de sport. Tout en modifiant un petit peu son régime alimentaire aussi pour s'adapter.
Et
on voit la photo avant. Alors, il n'est pas devenu Schwarzenegger, mais on voit quand même qu'il a les tablettes de chocolat.
Non, mais
il a complètement changé, quoi.
Enfin, il a une musculature. Enfin,
ah oui, il a pratiquement pas
on parle pas de graisse, de bodybuilding, etc. Ici, hein.
Non,
on
exactement.
Parle de quelqu'un qui est en forme. Et surtout,
on voit qui est mince. On voit à l'évolution physique, puis on voit même mentalement, ça l'a aidé. Enfin, il a une espèce de bonne humeur, il est en forme, etc. Il travaille mieux. Enfin, ça a des répercussions. Il a modifié un petit peu son régime, c'est-à-dire qu'il arrête plus. Avant, il grignotait beaucoup entre les repas, il mangeait beaucoup le matin, beaucoup le soir, etc. Il a changé quelque chose. Par exemple, il continue à grignoter. Par exemple, il grignote des fruits maintenant. Au lieu de grignoter des gâteaux ou des barres de chocolat à longueur de journée, maintenant voilà. Il a toujours une corbeille de fruits à disposition, pas loin de chez lui, donc il suffit. C'est des petites choses, il a changé simplement des petites choses, et ça suffit à changer complètement son apparence.
Voilà.
Donc,
alors,
si vous voulez tenter
le régime One Punch Man,
c'est
voilà. Est-ce qu'il était jusqu'au bout, jusqu'à essayer de taper les gens avec un coup de poing?
Peut-être, ou alors il n'y a personne qui est revenu se plaindre, en tout cas, peut-être que ça a marché.
En tout cas, ses employés se tiennent à carreau maintenant, ça c'est clair.
Allez, je vous rappelle d'ailleurs, hein, puisque vous écoutez l'émission, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page Heureusement en France. Nos podcasts sont disponibles également sur anotherpodcast.fr. On va terminer cette émission en s'écoutant encore un groupe d'eux-mêmes qui vont passer à Trolls et Légendes. Et on va parler notamment de Nahuel Band.
Ah, malheureusement, ils étaient en concert hier soir à Trolls et Légendes, mais ils y sont tous les ans. Donc,
Là, ça sera une collaboration entre Magoyon et Nahuel Band. Alors, rapide mot sur Nahuel Buck, Ronald.
Comment dire?
C'est une espèce de podcast parodique.
Voilà, médiéval, à l'époque.
Autour du jeu de rôle, où un personnage, ils improvisaient, c'est le même personnage qui faisait toutes les voix, je ne sais plus, ça se retrouve, Nahuel Buck, qui faisait toutes les voix, donc c'était très amusant. Et il a monté des inventeurs complètement loufoques de jeux de rôle, de gens. Et puis ça a tellement bien marché qu'il y a eu une BD, il y a eu un jeu de rôle, il y a eu des jeux de société, etc.
Ouais.
Et ils ont joué, et ils avaient fait de la musique à l'époque. Et la musique, maintenant, ils les jouent sur scène, c'est devenu un vrai spectacle complet, quoi, avec les costumes et compagnie.
Il y avait la chanson, c'était l'ami du troll ou ça
l'elfe farci.
L'elfe farci. Mais voilà, il reprenait vraiment cet univers héroïque fantastique avec un humour qui était vraiment très poussé.
Il recréait des parties de jeux de rôle,
mais comme si on était à la place des personnes.
On est dans la lignée, voilà, c'est devenu culte comme Kaamelott et compagnie, quoi. C'est vraiment ça. C'est dans le même esprit.
Et c'était vraiment fort sympathique. Donc voilà, c'est ce qu'on va s'écouter, hein, c'est une collaboration. Donc il y aura un peu de Nahuel Buck et Magoyon, c'est un peu un groupe parodique, mais toujours dans l'univers médiéval. Il faut vraiment écouter parce que leurs paroles, des fois, sont vraiment, vraiment sympathiques. Voilà, on va laisser la place aux aventuriers des salles obscures. D'ailleurs, il y aura des places de cinéma à gagner, donc restez bien à l'écoute. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.
L'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant du mithril. S'il y en avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on voit la nuit. Et on n'aime pas ce de la surface. Harker, tu n'es pas bienvenu. Lui dire les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondine bleue blanc sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée, il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on voit la nuit. Et on n'aime pas ce de la surface. Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Jourdil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on voit la nuit. Amis, restons bien à l'abri. Mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. Allez, patron, on va se faire reculer.